France Culture, il est midi et demi. Tout de suite, le journal. Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Au lendemain d'un discours aux accents triomphants devant le Congrès, Donald Trump se prépare aujourd'hui à un acquittement annoncé au Sénat dans son procès en destitution. Et puis toujours aux États-Unis, c'est finalement le candidat modéré Pete Buttigieg qui a créé la surprise en arrivant en tête de la primaire démocrate dans l'Iowa.
La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, veut accélérer la mise en concurrence des transports et ce sera sur toute l'Île-de-France.
Oui, les premières lignes de Transilien pourraient être concernées dès 2023. Les pharmaciens sont en colère en cause d'un projet de loi présenté ce matin au Conseil des ministres et qui prévoit notamment de faire sauter l'obligation pour les médicaments vendus en ligne d'être stockés dans des officines. Enfin, l'invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes à l'occasion de l'ouverture aujourd'hui du Salon des entrepreneurs, Alexandre Mars, auteur de Ose, tout le monde peut devenir entrepreneur. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Avec le réalisateur Patrick Rothman, auteur de plusieurs documentaires sur des hommes d'État français, de Gaulle à Mitterrand, des documentaires historiques aussi sur mai 68 ou le mur de Berlin. Il revient avec une série documentaire, Goulag, une histoire soviétique. Il sera avec nous donc dans une vingtaine de minutes.
Merci et à tout à l'heure. Décidément, rien ne se sera donc passé comme prévu lors du caucus démocrate de l'Iowa, au point que la soirée de lundi aux États-Unis apparaît d'ores et déjà comme historique. Pourquoi ? Tout d'abord parce que la débâcle informatique avec l'application qui devait permettre d'enregistrer les résultats des bureaux de vote aura dépassé le seul cadre politique. Ce cafouillage n'aura pas seulement empêché le vainqueur de l'Iowa d'apparaître d'ordinaire, triomphant une des journaux le lendemain. Non, ce fiasco aura une nouvelle fois ébranlé la fiabilité du processus électoral américain, pourtant vanté comme un exercice de démocratie pure par un mélange à la fois de dysfonctionnement et d'amateurisme. Et puis, l'autre surprise est venue des premiers résultats, encore partiels, diffusés hier par les instances locales du Parti démocrate. Puisqu'après une très longue et chaotique attente, il ressort que c'est l'outsider et benjamin de la course, Pete Buttigieg, quasi inconnu de la scène politique, dont nombreux sont ceux, y compris chez les Américains, à avoir de la peine même à prononcer son nom, qui a pris l'avantage sur tous ses adversaires, avec un peu moins de 27% des voix, contre 25 pour Bernie Sanders, près de 19 pour Elizabeth Warren, et à peine plus de 15 pour Joe Biden. Dès lors, ces premiers résultats sont-ils un signe avant-coureur de ce qu'une petite partie des électeurs démocrates aurait envie de renverser l'establishment du parti? Seule certitude, l'ancien maire de la petite ville de South Bend dans l'Indiana, premier candidat ouvertement gay à se placer ainsi pour l'investiture d'un grand parti américain, s'impose désormais comme un homme incontournable dans la course à la Maison Blanche. Son portrait signé de notre correspondant Grégory Phillips.
Terminée l'époque, comme ici en avril 2018, où son équipe de campagne devait entraîner les foules à prononcer ce nom de famille d'origine maltaise, Buttigieg. Avec ce résultat de l'Iowa, l'ex-maire de South Bend, Indiana, il a quitté ses fonctions en début d'année, commence non seulement à se faire un nom, mais les Américains découvrent aussi ce profil atypique.
I'm Pete Buttigieg, I'm the mayor of South Bend, Indiana.
Pete Buttigieg a 38 ans, diplômé de Harvard, chrétien, marié depuis juin 2018 à Chastain, son compagnon, qui aspire à devenir le premier first gentleman à la Maison Blanche. Ancien réserviste en Afghanistan et capable de parler 8 langues, dont le norvégien, le dari et l'arabe, c'est en français que Buttigieg nous avait répondu en fin d'année dernière quand on lui avait demandé si son manque d'expérience nationale et son jeune âge était un atout ou un handicap.
Peut-être c'est comme ci, comme ça, mais je crois que dans les États-Unis, spécialement avec les démocrates, pour gagner, il faut un candidat qui peut offrir un message qui est nouveau et une génération nouveau.
Depuis plusieurs semaines, il y a de plus en plus de monde dans les meetings de Buttigieg, beaucoup de jeunes, assez peu de noirs. Le candidat multiplie d'ailleurs ces derniers temps les signes adressés à la communauté afro-américaine, notamment dans la perspective de la primaire de Caroline du Sud à la fin du mois. Dans les sondages nationaux, Mayor Pete, comme continuent de l'appeler ses supporters, n'est encore qu'à la 5e place, mais il sait aussi que depuis 1996, tous les vainqueurs démocrates de l'Iowa ont ensuite décroché l'investiture de leur parti.
Voilà, un reportage signé Grégory Phillips. Alors, on se souviendra encore longtemps de ce caucus de l'Iowa QV 2020 et peut-être notamment comme du jour où Donald Trump aura fait un pas de plus vers une possible victoire. Le locataire de la Maison Blanche ne pouvait guère en effet espérer mieux. Il a d'ailleurs très rapidement su tirer profit du ratage en se moquant de ses rivaux. Par ailleurs, et à 9 mois de la présidentielle, difficile d'imaginer meilleur tremplin pour Donald Trump que cette journée de mercredi à quelques heures de son vraisemblable acquittement par le Sénat. Épilogue d'une procédure de destitution qui n'aura jamais fait vaciller sa base électorale, toujours fidèle. Mieux encore, puisqu'à en croire un dernier sondage, le milliardaire républicain enregistrerait 49% d'opinion favorable, soit son score le plus élevé depuis son installation dans le bureau ovale. Alors dans ces conditions, c'est peu de dire que hier soir, Donald Trump aura su profiter du traditionnel discours sur l'état de l'Union pour étaler une confiance presque insolente, revigorer le candidat républicain, embrasser tous les thèmes de la campagne à venir. Il s'est félicité des promesses qu'il a tenues et n'a pas manqué de dresser le bilan positif d'une économie rugissante. Mais surtout, le ton comme le contenu de ce discours auront rappelé que cette année électorale sera aussi l'occasion d'une bataille sans merci, en l'occurrence Claude Guibal. La division qui règne actuellement dans la classe politique comme dans le pays était non seulement palpable hier soir, mais aussi visible de tous.
Donald Trump vient à peine de conclure. Nancy Pelosi, visage fermé, attrape la copie du discours sur l'état de l'Union qu'il vient de prononcer et le déchire. Un prêté pour un rendu, une réponse au geste du président américain une heure plus tôt, arrivant à la tribune et ignorant ostensiblement la main tendue de Nancy Pelosi avant de commencer son discours. À la sortie, interrogée par les journalistes, elle glisse. Vu les alternatives, c'était la chose la plus courtoise à faire. La déchirure. L'image restera longtemps. Elle fige les deux Amériques scindées par la haine. À 79 ans, Nancy Pelosi, première femme à présider la Chambre des représentants, incarne tout ce que Donald Trump déteste. Une démocrate aux manières policées, issue d'une famille de politiciens. L'incarnation du système tant décrié par le businessman. Elle est aussi de tous les combats démocrates, l'IVG, l'accès aux soins des malades du sida, l'opposition à la guerre en Irak. Aujourd'hui, c'est elle qui porte la procédure de destitution de Donald Trump. Un impeachment auquel elle n'était pas favorable initialement, le sachant voué à l'échec et risquant de faire passer à la trappe les vrais débats de la présidentielle. Habile politicienne, elle sait que les républicains vont s'emparer de son geste. Un geste qui couvre ce matin dans les médias le discours triomphaliste de Donald Trump, se félicitant du succès de sa stratégie économique à 9 mois du scrutin présidentiel.
Le dernier bilan de l'épidémie de coronavirus communiqué par les autorités sanitaires chinoises fait état aujourd'hui de 490 morts. Plus de 24 000 cas ont par ailleurs été recensés dans le pays. C'est ainsi qu'après la mise en quarantaine de Wuhan et de toute la province dont elle est la capitale, un nombre grandissant de villes ont commencé à imposer également des restrictions de déplacement à leurs habitants dans d'autres provinces, donc, et notamment jusqu'aux lointaines régions industrielles du nord-est du pays, à 800 km du foyer de l'épidémie. Là-bas, c'est désormais le pôle économique de la région de Shanghai qui est désormais touché, en particulier la ville de Hangzhou, où se trouve le siège du géant de l'e-commerce Alibaba, qui a été mise en confinement. C'est une correspondance signée Dominique André.
Des vacances qui se prolongent, des employés reconvertis dans le télétravail, des chaînes de production à l'arrêt dans l'automobile ou l'électronique, le virus a frappé l'économie de la deuxième puissance mondiale. Apple, Foxconn, Electrolux, Tesla préviennent déjà que les livraisons seront retardées. Nike, qui a fermé la moitié de ses magasins en Chine, parle d'impact financier. Les PME qui ont peu de trésorerie souffrent énormément et on sait déjà que certaines ne résisteront pas, relève un expert. Chen Ye, la directrice d'une grosse PME de Shanghai, s'attend à des lendemains difficiles.
Le coût de production est élevé actuellement. Nous ne faisons pas de bénéfices. Les salaires des employés et le coût du loyer peuvent être fatals pour nous. Nos employés vont continuer de faire du télétravail puisque les vacances sont repoussées jusqu'au 10 février. Je vais devoir payer une fois et demie plus de salaire. Je souhaite que le gouvernement applique des mesures pour aider les petites et moyennes entreprises, par exemple zéro impôt, la réduction ou l'annulation des frais et du loyer.
Si les usines devaient rester fermées plus d'une semaine encore, c'est l'approvisionnement mondial qui sera à son tour touché. La Chine est le premier fournisseur de marchandises de 65 pays.
Les pêcheurs français vont-ils pouvoir retourner au large de Guernesey samedi dernier? Au premier jour de la sortie du Royaume-Uni de l'UE, les autorités de l'île anglo-normande avaient suspendu l'accès des navires de pêche français dans leurs eaux. Et finalement, quatre jours plus tard, un accord diplomatique aurait été trouvé. C'est du moins ce qu'a assuré hier le ministre français Didier Guillaume. Seule certitude pour l'instant, Marie-Pierre Vérot, la séquence donc du week-end dernier révélatrice de la sensibilité du dossier de la pêche dans les négociations post-Brexit qui doivent s'ouvrir entre Londres et Bruxelles.
D'ailleurs, signe de cette sensibilité, le gouvernement français s'est précipité au chevet des pêcheurs normands. La secrétaire d'État chargée des affaires européennes, la porte-parole du gouvernement, sont immédiatement partis rassurer les pêcheurs. Les pêcheurs français qui redoutent en effet que Guernesey ne soit un mauvais présage, même si la situation de l'île anglo-normande est très spécifique. Elle n'appartient pas à l'Union européenne. C'est un territoire associé. Guernesey n'a d'ailleurs pas voté pour le Brexit et dépend non du gouvernement britannique, mais de la couronne. Les droits de pêche y étaient régis non par l'accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, accord qui va devoir être renégocié, mais par la Convention de Londres qui date de 1964, convention dénoncée par la Grande-Bretagne en 2017 et qui est devenue caduque le 31 janvier au soir avec l'entrée en vigueur du Brexit. Du coup, les autorités de Guernesey n'avaient pas le choix. Elles ont été obligées de suspendre l'accès des pêcheurs français à leurs eaux, mais c'était un acte administratif, le temps que des autorisations en bonne et due forme soit délivré aux bateaux de pêche, ce qui est en cours. L'incidence a d'ailleurs été minime, seules quelques dizaines de chalutiers français ont dû rester au port. Mais cette confusion administrative et la vigueur de la réaction des pêcheurs français illustrent bien les difficultés à venir sur le dossier de la pêche, l'un des plus sensibles sans doute à négocier entre Londres et Bruxelles. Pour l'instant, on le sait, rien ne change jusqu'au 31 décembre 2020, mais Boris Johnson n'a pas fait mystère de son intention de reprendre le contrôle des eaux britanniques, des eaux très poissonneuses et indispensables aux pêcheurs du continent.
La commission spéciale sur les retraites continue à piétiner à l'Assemblée, majorité d'un côté et opposition de l'autre, se reprochant mutuellement d'abîmer le Parlement. Hier, les tensions se sont notamment accrues autour de la réduction des temps de parole. Précisons que depuis le démarrage de ces travaux, c'était lundi, la commission spéciale n'a examiné que 360 amendements, ce qui signifie que plus de 20 000 restent encore à débattre. Faut-il y voir un effet des grèves récentes contre la réforme des retraites, justement, dans les réseaux de transport public? Toujours est-il que la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, veut accélérer la mise en concurrence des transports sur toute l'Île-de-France. Les premières lignes de Transilien pourraient être concernées dès 2023 et celles des RER et métro en 2030. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Alors c'est peu de dire que c'est un véritable big bang donc que propose la patronne de la région, et on imagine Hakim que ces annonces choc publiées ce matin dans le Parisien ne devraient pas manquer de susciter des critiques.
Oui, commencer par le Parti communiste qui parle ce matin d'une véritable thatcherisation du système ferroviaire français, qui a même déposé deux amendements pour reporter l'ouverture à la concurrence. Alors concrètement, la présidente de la région Île-de-France souhaite un vrai service garanti aux heures de pointe et les jours de grève, car si c'est déjà le cas et cela est prévu, en théorie, dans la pratique, cela ne marche pas forcément comme on a pu le voir pendant les grèves, avec des lignes de train et de métro totalement paralysées pendant plusieurs jours. Autre mesure plus polémique, Valérie Pécresse entend réquisitionner des conducteurs réservistes les jours de grève, pas sûr que les syndicats apprécie. Alors, si le gouvernement n'est pas obligé de la suivre à 100%, en revanche, elle peut agir directement en tant que présidente de région sur la mise en concurrence de l'RATP et de la SNCF. La loi sur la réforme ferroviaire l'y autorise à partir de 2023. Elle espère ainsi réduire les coûts et améliorer le service. Il faut dire que les régions sont de très gros investisseurs publics de la SNCF et de la RATP, notamment sur les TER, les trains express régionaux, qui sont subventionnés à hauteur de 70%. Aujourd'hui, 5 régions ont déjà engagé le processus d'ouverture à la concurrence, comme la région Hauts-de-France, par exemple, présidée par Xavier Bertrand, ou encore Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais attention, car si le rail français aiguise les appétits, les procédures d'appel d'offres sont très longues et cela peut donc prendre plusieurs années. Enfin, les opérateurs privés seront très regardants sur la rentabilité des lignes qu'ils souhaiteront obtenir. Ils ne seront forcément pas toujours regardants sur l'offre de services publics.
Merci Hakim Kasmi. Faut-il y voir une forme d'ubérisation du médicament? C'est ainsi en tous les cas que les pharmaciens dénoncent un projet de loi présenté ce matin au Conseil des ministres. Alors de quoi s'agit-il? Jusqu'à présent, tous les médicaments vendus en ligne doivent être stockés dans des officines. Or, un article de ce projet de loi prévoit justement de faire sauter cette obligation, ce qui signifie que les plateformes de vente pourraient donc être détachées des pharmacies et les médicaments entreposés ailleurs. Céline Autain, bonjour.
Bonjour.
Quoi qu'il en soit, c'est ainsi que les professionnels dénoncent aujourd'hui d'une même voix une marchandisation du médicament.
Oui, la grande peur, c'est l'arrivée d'Amazon qui pratique déjà la vente en ligne de médicaments aux États-Unis. Il y a d'abord des inquiétudes concernant des risques de contrefaçon et l'absence de garantie sur les données personnelles des acheteurs. Mais c'est surtout l'esprit de cet article qui fait réagir l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Pour son vice-président Pierre-Olivier Vario, ce n'est pas la santé qui pilote l'argent, qui pilote le projet, mais l'argent.
Quand vous avez mal à la tête, quand vous avez une gastro, quand vous avez besoin de traitement, je ne vous vois pas aller sur Internet en disant « tiens, je vais commander et je serai livré dans 2 jours avec des frais de port ou pas, ça c'est autre chose ». Quand vous avez mal à la tête, vous n'allez pas attendre 2 jours. Et puis quand vous allez sur Amazon ou sur une plateforme quelle qu'elle soit, vous allez dire « ben voilà, j'en prends une boîte, j'ai 3 euros de frais de port, à partir de 4 boîtes, les frais de port sont offerts ». Ben voilà, on est plus dans un parcours de soins, mais dans un parcours de consommation.
C'est un très mauvais signal envoyé à la profession, poursuit Pierre-Olivier Vario. Contradictoire avec la décision il y a 2 semaines de mettre fin à la vente en libre accès du Doliprane ou du paracétamol, on responsabilise les pharmaciens d'à côté pour leur enlever des prérogatives de l'autre.
On a une ministre et un président qui disent, dans le cadre du plan santé 2022, on veut renforcer le rôle du pharmacien auprès des patients. Ça, c'est ce qu'on est en train de construire avec Agnès Buzyn, avec Nicolas Revel. On construit aujourd'hui le pharmacien au cœur d'un système d'accompagnement avec des bilans de médication, avec des prises en charge, avec la vaccination, etc. Et aujourd'hui, ce texte, il est en train d'ouvrir le rôle du pharmacien comme étant commerce. Non, ça va pas du tout.
En 4 jours, le syndicat vient de récolter plus de 5000 réponses de pharmaciens opposés dans leur très grande majorité au projet du gouvernement. Ils promettent une mobilisation dure, comme en 2014. À l'époque, ils avaient fait reculer le ministre de l'économie sur le monopole des pharmacies. C'était Emmanuel Macron.
Merci Céline Autain. C'est un peu quoi qu'en stock, à l'instar du patron des députés LR, Damien Abad. Plusieurs responsables des Républicains ironisent depuis ce matin sur la série de couacs qui a secoué la majorité ces derniers jours, l'attribuant à des députés Playmobil et des ministres déconnectés. Et c'est vrai qu'entre la circulaire Castaner, retoquée par le Conseil d'État, le rétropédalage de la ministre de la Justice dans l'affaire Mila, ou bien encore la cacophonie autour du congé après le deuil d'un enfant, eh bien, la liste est longue de ces couacs du gouvernement, au point même de semer à présent la zizanie en Macronie. Pierre Neveu, bonjour.
Bonjour.
Les députés LREM ne cachent plus leur colère donc contre l'exécutif, y compris d'ailleurs contre Emmanuel Macron.
Oui, et cette fois les députés LREM osent sortir du silence. Et les propos du député du Vaucluse, Jean-François Césarini, recueillis dans les couloirs de l'Assemblée, illustrent l'ampleur de la fracture.
Le bouc émissaire, que ce serait que les députés En Marche, qui seraient inhumains, qui auraient aucun sens politique, qui seraient des imbéciles, c'est un scénario qu'on n'accepte pas, parce qu'à la fois vous nous avez dit de voter contre, certains ont voté contre, on leur a mis conscience parce que techniquement ils trouvaient que le projet n'était pas bon, on a voté contre, et une fois qu'on a voté contre, on ouvre la presse en disant « ouais, c'est des cons, c'est des imbéciles, ces gens-là sont inhumains ». Enfin, c'est inacceptable.
Et les cons, ce sont les députés qui ont juste été loyaux à l'égard du gouvernement, renchérit la députée Aurore Berger. Bref, accusée d'être sans cœur, sans humanité, de s'être montrée amateur dans l'examen de la proposition de loi, les députés LREM ont clairement exprimé leur désaccord. Et si les tensions se révèlent au grand jour, c'est parce qu'il y a une accumulation de crises des gilets jaunes à la réforme des retraites. Les députés LREM n'acceptent plus de prendre des coups, ils n'acceptent plus d'être traités de godillots ou de se faire insulter par leurs électeurs lorsqu'ils retournent dans leur circonscription. En somme, c'est l'organisation du Nouveau Monde, LREM, qui vacille, un groupe politique hétérogène venu de la société civile et qui ne supporte plus l'organisation verticale du pouvoir. Au départ, ce sont les députés de l'aile gauche de la Macronie qui se sont offerts quelques libertés, mais plus récemment, il y a eu l'affront Villani, le candidat dissident à la mairie de Paris qui a décidé de maintenir sa candidature en dépit de la demande d'Emmanuel Macron. Ses maladresses et polémiques ont laissé des traces dans la majorité et illustrent toute la difficulté à tenir un groupe face à un exécutif loin de sa majorité. Une accumulation de frustrations et de mauvais résultats au municipal pourrait déstabiliser un peu plus cette majorité qui a déjà perdu 10 de députés en seulement 2 ans et demi de mandature.
Merci Pierre Neveu. Invité de la rédaction aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture du Salon des Entrepreneurs, Alexandre Mars, président de la Fondation EPIC et auteur notamment de « Ose, tout le monde peut devenir entrepreneur » publié chez Flammarion. Bonjour monsieur.
Bonjour Thomas.
À mes côtés pour vous interroger, Anne-Laure Jumet. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour.
L'an dernier, 815 000 nouvelles entreprises se sont créées, c'est beaucoup, 18% de plus en un an. Dans un cas sur deux, il s'agit d'une micro-entreprise, sauf que ce succès apparaît très relatif, puisqu'en réalité, deux tiers des auto-entrepreneurs arrêtent leur activité dans les 3 ans.
C'est une question, Thomas.
Oui.
Oui, en fait, c'est un, le chiffre est extrêmement bon, 815 000, c'est le meilleur chiffre en Europe. Donc, essayons de regarder le côté positif aussi de ces chiffres-là. Ça prouve quelque chose, ça prouve que les gens veulent se lancer, ont envie d'être entrepreneurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas forcément un gage de succès de se lancer. Donc, en effet, des échecs, ils existent. Et on le sait aussi, quand on se lance en tant qu'entrepreneur, que le succès ne sera pas toujours là, tout sera pas toujours facile. Mais c'est intéressant de voir qu'on a un peuple qui veut se lancer de plus en plus. Et c'est pas uniquement les moins de 25 ans. Alors, les chiffres des moins de 25 ans sont intéressants, puisque il y a 46% de ces jeunes de moins de 25 ans qui veulent absolument être entrepreneur. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que 86% de ces jeunes qui veulent se lancer voient dans l'entrepreneuriat une action quasiment sociétale. C'est-à-dire qu'ils se voient dans une mission positive pour la société.
Est-ce que c'est ça qui a changé justement? Parce que vous dites, je vais souvent dans les grandes écoles, il y a encore 5-6 ans, presque aucun jeune me disait, je veux créer ma boîte, je veux plutôt aller dans une grande entreprise, une société de conseil, etc. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Comment vous l'expliquez?
Alors, ça a totalement changé. Quand on pose cette question-là à ces jeunes, ils nous répondent tout de suite que non, en effet, ils ne veulent pas forcément ou plus du tout travailler dans les secteurs qui paraissaient très intéressants ou très sexy il y a encore 10 ou 20 ans de ça. Ils veulent avoir cette liberté d'action. Ils veulent potentiellement aussi rester ou travailler de là où ils veulent, ce qui veut dire que cette liberté est importante. On parle beaucoup ici et ailleurs de la Startup Nation, qui est un élément de langage qui est utilisé depuis un an ou 2 ans. L'entrepreneuriat, justement, c'est l'inverse de la Startup Nation. La Startup Nation, c'est tout de suite penser que pour réussir, il faut lever 50, 100, des sommes considérables. Ce qui est intéressant avec l'entrepreneuriat, et Thomas, même l'auto-entrepreneuriat ou le micro-entrepreneuriat, c'est que vous pouvez rester dans votre Lot-et-Garonne et être freelance. Et peut-être qu'en effet, les évolutions de société, pour répondre à votre question Anne-Laure, sont peut-être différentes. Peut-être qu'il y a 20 ans ou il y a 10 ans, le succès, c'était forcément un succès financier. Et bien aujourd'hui, c'est plus que ça. Et ça, on doit pouvoir, et espérons qu'on mette ça en avant, parce qu'aujourd'hui, peut-être que la création, un boulanger est un artisan, mais est un entrepreneur. Et c'est assez intéressant de voir l'évolution de société. La mission n'est pas forcément la même qu'elle pouvait être il y a 10 ans.
Alors dans ce livre Ose, vous donnez des recettes pour réussir. Il y en a une qui m'a interpellée parce qu'elle peut paraître à contre-courant de certaines idées reçues. Vous dites, il ne faut pas chercher l'idée géniale que personne n'a eue.
Oui, souvent, les gens qui peuvent vouloir se lancer disent « mais je vais attendre d'avoir la grande idée, et sans la grande idée, je ne me lance pas ». Et en fait, il faut démystifier un petit peu cette quête de l'idée absolue. Moi, je dis « Eureka n'existe pas ». Être un entrepreneur ne veut pas forcément dire être un inventeur. Alors, si vous prenez Elon Musk ou vous prenez Charles Tellier, c'est des gens qui sont forcément aussi des inventeurs. L'énorme majorité, moi y compris, on est des entrepreneurs. C'est-à-dire qu'on prend une idée et c'est la capacité du déploiement de cette idée, de la mise en place, qui va faire certainement le succès de cette idée-là. Donc surtout, n'attendez pas, parce que moi je vois encore des gens qui m'ont parlé de cette grande idée qu'ils cherchaient il y a 2-3 ans. Je peux assurer qu'ils n'ont pas bougé. Parce que ça ne se trouve pas forcément.
Dites même, il vaut mieux qu'il y ait de la concurrence finalement dans un secteur pour que ce soit efficient.
Oui, parce que les gens, et ça paraît assez logique au départ, on pourrait imaginer dire c'est génial, j'ai vu personne sur ce secteur d'activité. Donc ça, c'est encore une meilleure raison pour me lancer. S'il n'y a personne, il y a certainement des raisons. Ne pensez pas que vous avez été le premier à imaginer quelque chose. Et s'il y a d'autres personnes qui sont lancées avant et qui ont échoué, c'est peut-être pour ça que le marché en fait n'est pas bon.
Alors Alexandre Mars, on parlait de ces entreprises qui n'arrivent pas à survivre. Il y a aussi un problème dont on parle inévitablement quand on parle de création d'entreprise. C'est le manque de capitaux disponibles en France pour des projets de taille importante. Vous disiez, il n'est pas obligé de lever des millions. Mais malgré tout, quand une entreprise veut lever des millions, des dizaines de millions, elle se tourne plutôt quand même du côté de sociétés anglo-saxonnes.
Alors c'est moins vrai aujourd'hui. C'était vrai par le passé, en effet, Anne-Laure, c'est moins vrai aujourd'hui. On se rend compte aujourd'hui qu'il n'y a jamais eu autant d'argent levé. Donc, c'est des termes qui sont utilisés, puisque 5 milliards, ce sont des sommes considérables qui ont été levées. Donc, c'était le cas avant. C'est vrai que les tissus en fait, de financement sont en train d'évoluer, en partie grâce à la banque française BPI, qui est la Banque publique d'investissement, qui fait un travail considérable. Pas uniquement à Paris, et encore une fois, je pense que c'est important ça également, mais aussi dans les régions. On voit qu'aujourd'hui, il y a justement de plus en plus d'argent disponible, de nouveau, il faut que les projets soient de qualité pour qu'ils puissent être financés.
Et vous pensez donc que, pour revenir au début de notre interview, que ce statut d'auto-entrepreneur, c'est une bonne idée pour démarrer? C'est un bon statut pour se lancer?
Je pense qu'il faut faire attention à la précarité que ce statut-là peut amener, évidemment. Et c'est vrai qu'une partie de ces 815 000 entreprises ont été créées par des chômeurs qui ont pu comme ça se réinsérer. Donc je ne dis certainement pas que le monde est parfait. Ce que je vois, c'est qu'il est quand même utile d'apporter des solutions pour les gens qui veulent se lancer. Ce livre, en effet, c'est 21 chapitres où je suis allé aussi interviewer une trentaine d'entrepreneurs pour leur poser des questions. Et toi, comment tu as fait? Aussi bien sur le développement, sur leur nom, sur les associations qu'ils peuvent avoir, mais pour que ça soit un succès.
Merci Alexandre Mars, président de la Fondation Epic, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle le titre de votre dernier livre, paru donc le 22 janvier dernier chez Flammarion. Ose, tout le monde peut devenir entrepreneur. Merci également à Anne-Laure Jumet. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Globalement ensoleillé, seul le nord-ouest du pays verra le ciel encore assombri par les nuages. Par ailleurs, la vigilance orange crue est toujours maintenue pour 3 départements, les Ardennes, la Marne et la Meuse. Quant aux températures, elles afficheront entre 8 et 18 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.